Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. La dette publique belge est-elle soutenable à long terme? Dominique Berns répond à cette question dans un instant. Mais d'abord, on revient en long et en large sur les conclusions, les enseignements de l'enquête Noir-Jaune Blues 5 ans après. Nous sommes le mercredi 25 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Quelles sont les aspirations de nos concitoyens? Quel regard portent les Belges sur la société actuelle? Voilà quelques-unes des questions que pose l'enquête Noir-Jaune Blues 5 ans après, publiée depuis lundi par Le Soir et la RTBF. Quels en sont les grands enseignements? Quelles sont les questions qui ont été soulevées? On fait le tour avec Pascal Martin du Service Forum. Bonjour Pascal.
Bonjour Pierre.
C'est en réalité la troisième édition de l'enquête Noir-Jaune Blues. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et comment est-ce qu'on en est arrivé à trois volets?
Alors, Noir-Jaune Blues est présent dans Le Soir depuis 1997 en fait. C'est cette année-là qu'on a organisé pour la première fois avec Survey and Action, c'est-à-dire l'Institut de recherche en sociologie de Benoît Chauvin. Cette vaste enquête sur la société belge et son état de santé, en quelque sorte, son diagnostic. On a refait cet exercice en 2017, juste après les attentats. Et puis aujourd'hui, 5 ans après, on vient de sortir le troisième opus, en quelque sorte, de ce Noir-Jaune Blues, qui a la particularité de sortir à nouveau dans une période qui est fortement bousculée par les crises. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, la crise des énergies, etc. Donc autant d'événements qui sont susceptibles de bouleverser une société. Oui.
Là, l'enquête essaye vraiment de dresser une espèce de carte d'identité, des aspirations, des pensées des citoyens. Et il y a un mot qui apparaît en filigrane tout au long de l'enquête, c'est le terme « retribalisation ». On entend quoi par retribalisation?
Alors, retribalisation, ça veut dire en quelque sorte retourner vers sa tribu. Car il faut penser, en tout cas c'est comme ça que Benoît Chauveur le voit, qu'avant notre société, on vivait peut-être en tribu, en famille, en groupe, et qu'il n'y avait pas ce socle commun de valeurs et d'intérêts communs entre les Belges. Et donc, ça consiste à dire que ce socle commun est progressivement abandonné, il se délite, les Belges se replient sur eux-mêmes, sur leur groupe, sur leur famille, avec ce que ça comporte d'égoïsme et de rejet de l'autre. Quand je dis les Belges, c'est une majorité ici dans ce cas, puisque ils sont 52% à se retribaliser face à ce que Benoît Chauveur appelle des adeptes de la société ouverte, c'est-à-dire des gens qui veulent reprogrammer le monde, qui veulent prendre la patience en quelque sorte de réformer, mais sans casser le modèle actuel.
Comment on peut expliquer le succès de ce genre de sentiment? Vous avez dit comment est-ce que ça se matérialisait, mais il vient d'où ce sentiment qui nous pousse vers la retribalisation?
Sans grande surprise, ce sont les inégalités qui rongent la société, qui font qu'à un moment donné, plus vous avez de problèmes pour vivre, plus vous considérez que votre voisin est peut-être un adversaire, voire un ennemi. Donc on a connu beaucoup de problèmes depuis une vingtaine d'années. Il y a la crise économique, il y a le chômage, le climat, autant de choses qui font qu'à un moment donné, vous perdez peut-être foi en vous et quelque part vous vous racrapotez sur vous-même avec ce que ça peut représenter comme danger pour le modèle global de la société.
Il y a les retribalisants d'un côté, il y a les partisans d'une société ouverte de l'autre. Il y a une espèce d'entre-deux dans lequel se trouve peut-être une grande partie de la population.
Oui, il y a ce que l'enquête appelle des ambivalents, donc des indécis, des gens qui ne savent pas très bien comment se diriger. Je pense qu'on a tous un peu d'ambivalence en nous et... On a vu durant le Covid, je pense que des gens ont cru que le monde d'après serait peut-être meilleur et ne serait pas pire, comme on essaye parfois de nous le faire croire aujourd'hui. Et ces gens qui étaient ambivalents se sont retrouvés à un moment donné dans la société ouverte en se disant « je peux peut-être faire quelque chose pour faire avancer les choses ». Et puis, à un moment donné, ils ont vu qu'on revenait à une espèce de statu quo, que les choses reprenaient comme avant la crise sanitaire. Et donc, on les retrouve à nouveau dans les indécis et les ambivalents. C'est évidemment une population importante, parce que si on arrive à la convaincre qu'il faut aller du côté du progrès et pas dans la réaction bête et méchante, dans la peur en tout cas, peut-être que ça peut faire avancer les choses.
On voit vraiment l'effet post-crise sanitaire. Il y a plusieurs coups de sonde qui ont été faits pour arriver au résultat de cette enquête. Et si on prend les coups de sonde juste après la crise sanitaire, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et au mois de juillet, au moment où les prix de l'énergie commencent à augmenter, on voit que les sentiments sont plus forts au moment de ce troisième coup de sonde. Et donc, comme vous l'expliquez, il y a peut-être eu cet espoir déçu d'une société nouvelle qu'on ne voit pas arriver. Et donc, on se radicalise un peu plus parce qu'on est déçu de ne pas avoir vu arriver ce changement.
Tout à fait. Il faut dire qu'on n'a pas eu de chance non plus, puisque au moment où on sortait de la crise sanitaire, la guerre en Ukraine est arrivée. Elle a dopé la crise des énergies qui avait déjà commencé auparavant. Elle l'a lancée, en tout cas, elle l'a pousser l'inflation, la poussée inflationniste. Et donc, il y a évidemment un réflexe purement de sauvegarde, de survie économique dans tout ça. Il faut dire que les gens ont peur du lendemain, ils ont peur de ne pas arriver au bout de leur mois, les fins de mois sont difficiles. Vous avez de plus en plus de nouveaux précaires ou de nouveaux pauvres. Il y a les retraités qui ne s'en sortent pas, il y a les chômeurs, il y a la classe moyenne dite inférieure qui souffre. Il y a en fait un délitement de la société que l'on connaissait jusqu'ici qui est en route. Oui.
Il y a une autre tendance qui prend de l'épaisseur aussi, c'est celle d'une aspiration à une gouvernance autoritaire. Ça veut dire que les Belges en ont assez de la démocratie ?
Oh, je pense que le sondage donne la possibilité aux gens de gueuler un bon coup, pour le dire simplement. Et dire « j'en ai marre de ce gouvernement », je pense que tout le monde le dit un jour ou l'autre, en fonction de ses intérêts et de sa perception. Mais il reste que peut-être que par aussi un manque de connaissance, les gens pensent qu'aller vers un pouvoir plus fort qui serait débarrassé du contrôle d'un parlement, de la presse, etc., peut apporter des solutions. Ben, là, il faut se tourner vers l'histoire lointaine comme immédiate pour se rendre compte que ça ne marche pas comme ça. On a eu une période d'incertitude en Belgique avant la Deuxième Guerre mondiale avec Léon de Grelle qui était pour un pouvoir fort. Hein. C'était un émule du fascisme italien. À plus près de nous, on a eu des gens comme Trump, Bolsonaro qui montrent que la force, ça résout pas tout.
Comme on le disait, par rapport à ce sentiment de retribalisation, ce entre guillemets désir de répression, là, il s'explique aussi par la conjoncture actuelle, par la guerre en Ukraine, par la flambée des prix. C'est ça qui pousse aussi peut-être les citoyens vers ce désir d'autorité, de répression.
Je pense que lorsque l'on n'a pas confiance en soi, ben on cherche parfois des arguments de force et recourir à une gouvernance autoritaire. Plaider pour la peine de mort comme une question de ce sondage le laisse penser, ça fait partie de ça, ça fait partie d'une grande angoisse sociétale. Il faut qu'on trouve un bouc émissaire, il faut qu'on pense résoudre les choses par une certaine violence, parce qu'une gouvernance autoritaire, c'est une violence évidemment, c'est refuser le dialogue pour aller vers des solutions à l'emporte-pièce. Toute faite, les gens oublient parfois que pour avoir une gouvernance autoritaire, ben, il faut mettre des paramilitaires autour et que ces gens-là sont rarement très sympathiques et ont vite fait faire le vide autour d'eux. Quoi.
On a dressé un tableau relativement sombre jusqu'ici. Il y a quand même des pistes de solutions qui sont aussi évoquées dans Noir Jaune Blues.
Alors, il y a des pistes de solutions. Nous avons interviewé, Eric Burgaff et moi, les gens de Ceci n'est pas une crise. Donc, c'est la fondation qui a mandaté l'Institut Survey in Action pour faire ce Noir Jaune Blues 3. Tout le monde est conscient, et à Ceci n'est pas une crise également, que les solutions ne se trouvent pas sur le pas de la porte et qu'il va falloir y travailler solidement. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, qu'il faut éduquer, évidemment, pour ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est que pour comprendre qu'un gouvernement fort n'est pas la solution, il faut peut-être savoir ce que ça veut dire un gouvernement fort et qu'est-ce qu'ont donné les précédents gouvernements forts dans l'histoire du monde.
Et regarder dans le rétro pour voir ce que ça a donné à une autre époque.
Voilà, il faut aussi éduquer à la politique, montrer aux gens en quoi ces institutions que nous avons en Belgique sont complexes, pourquoi est-ce qu'elles sont nécessaires à certains moments, quelles sont leurs limites, et elles sont connues ces limites, mais leur faire comprendre aussi qu'il y a peut-être pire ailleurs et que ces institutions sont peut-être un moindre mal dans un pays aussi compliqué. Alors, ces gens de « ceci n'est pas une crise » plaident aussi pour renforcer les corps intermédiaires. Donc, ils pensent que les syndicats, les mutuelles, les associations sont malmenées et insuffisamment financées, disent-ils. Or, on a besoin d'elles pour jouer en quelque sorte le rôle de tampon d'amortisseur entre la rue et le pouvoir, pour faire remonter en quelque sorte les problèmes que connaît l'homme de la rue et ébaucher des solutions que l'on va apporter devant politique qui va pouvoir en discuter dans les assemblées, etc.
Merci beaucoup Pascal.
Merci Pierre.
Les pouvoirs publics belges, État fédéral ou entité fédérée, seront-ils capables de financer la dette publique à court et à long terme? Le Conseil central de l'économie répond à cette question dans un rapport publié hier. Dominique Berns du service économie est passé en studio pour décrypter. Bonjour Dominique.
Bonjour Pierre.
Alors, cette dette publique, elle est finançable ou pas?
Pour le Conseil central de l'économie, qui regroupe les partenaires sociaux, les finances publiques, de manière plus générale, ne sont pas soutenables à long terme. Autrement dit, les pouvoirs publics belges, toutes entités confondues, ne pourront pas couvrir leurs dépenses actuelles et surtout futures avec suffisamment de recettes pour éviter un accroissement de l'endettement public.
Si on se compare aux pays voisins, elle est comment, notre dette par rapport à celle des pays voisins?
Notre dette publique est plus élevée que la moyenne européenne, un peu. Elle est surtout plus élevée que la dette publique allemande ou hollandaise. En revanche, elle est du même ordre de grandeur, rapportée au PIB, à la dette publique française. Voilà pour fixer le décor.
Le rapport du Conseil central de l'économie, il dit « Sans nouvelles mesures, cette situation budgétaire est clairement insoutenable ». Ça veut dire qu'il faut faire quoi pour réussir?
Alors, le Conseil central dit « À court terme, faut pas trop se tracasser ». Mais à long terme, en raison du vieillissement et des investissements qui seront nécessaires face au dérèglement climatique, il faut prendre de nouvelles mesures. Mais le Conseil central, il ne nous dit pas quelles mesures il faut prendre. Ça, c'est une question politique qui impliquera l'ensemble des partis et des parties prenantes et des citoyens belges dans une négociation ultérieure. Il pose, au contraire, le décor. Il analyse l'état, disons, des dépenses.
On parle de dette publique, mais il ne faut pas oublier que la Belgique est un État fédéral. Les entités fédérées, l'État fédéral, ils ont un poids qui est le même dans cette dette publique?
Non, tout à fait. L'important, c'est de bien comprendre que, effectivement, l'État fédéral porte l'essentiel de la dette publique et donc de la charge de la dette publique, c'est-à-dire des taux d'intérêt qu'il faut payer chaque année. Mais en fait, c'est un héritage du passé, rappelle le Conseil central. Cette dette a été accumulée essentiellement dans les 70 et 80, à une époque où l'État fédéral avait l'essentiel des recettes et des compétences des pouvoirs publics en Belgique. Depuis, il les a perdu.
Donc ça fait qu'il a toujours la charge de la dette, mais qu'il n'a plus les recettes.
Exactement. Il a toujours la charge de la dette, mais c'est un héritage du passé. C'est la dette commune qu'il porte. Et le deuxième élément que fait valoir le Conseil central de l'économie, c'est que les dépenses liées au vieillissement seront très largement à charge de l'État fédéral. Et donc, pour l'État fédéral, on ne peut pas toujours dire que l'essentiel de l'effort pour mettre les finances publiques de la maison Belgique sur une trajectoire soutenable, on ne peut pas dire que l'essentiel de l'effort devrait être fait au niveau fédéral. En ce sens, donc, les partenaires sociaux viennent à la rescousse de l'État fédéral contre une thèse qu'on entend souvent en Flandre, qui est de dire, chacun fait son travail et si chacun balaye devant sa porte, les rues seront bien propres. Le Conseil central dit non, il faut se mettre autour de la table. L'État fédéral, la Sécu, les entités fédérées, mais aussi bien sûr ultérieurement les parties prenantes, c'est-à-dire les syndicats, les patrons, les milieux économiques, les milieux sociaux, se mettre autour de la table pour négocier, pour décider ensemble, tous les Belges ensemble, de la manière dont on va pouvoir faire face aux défis du futur, donc le vieillissement et la lutte contre le dérèglement climatique, tout en gérant également ce lourd héritage de la dette constituée dans le passé, afin de trouver une manière qui permette à l'ensemble des Belges de vivre mieux demain. Et ça, c'est la grande question aujourd'hui dont on parle assez peu. Nos confrères du TED qui avaient fait fuiter l'information, cet avis du Conseil central, eh bien, le TED nous dit que c'est un vœu pieux. C'est une thèse que l'on entend souvent en Flandre. À ce à quoi le président du Conseil central, Beua Paillonnec, dit « Mais est-ce qu'on peut, dans un pays où les entités fédérées ont un poids budgétaire aussi important que l'autre, est-ce qu'on peut toujours dire que tout l'effort doit être supporté par l'entité fédérale ?» Le message, en fait, des partenaires sociaux, au-delà des détails de quelles dépenses sont plus élevées qu'en France ou moins élevées qu'aux Pays-Bas, c'est de se dire « Il faut préserver l'État fédéral et la sécurité sociale. »
Merci beaucoup Dominique.
De rien Pierre.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.